VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui de 18h30 temps universel du jeudi 19 septembre 2019 et Kabadou pour vous présenter cette édition. Tout d'abord les titres. Décès de l'ancien président tunisien Zine Al-Bidine Ben Ali en Arabie Saoudite où il était en exil depuis la révolution de 2011. La CPI se penche sur les charges portées contre Patrick Edouard Gainsona et Alfred Yekatom, ancien chef de milice centrafricain. Ils sont suspectés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au Libéria, la trentaine d'élèves morts hier dans l'incendie d'une école coranique sont tous d'origine guinéenne. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou plaide en faveur d'un gouvernement d'union. Ici, aux États-Unis, reportage à Little Sénégal, au cœur d'Harlem, l'un des derniers remparts de la communauté ouest-africaine.
Parfois, nous venons manger ici lorsque le Sénégal nous manque. Vous savez, quand on a un peu de temps et qu'on ne travaille pas, nous venons manger ici.
Et puis ne manquez pas dans 10 minutes l'information sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. L'ex-président tunisien Zine El Abidine Ben Ali est décédé aujourd'hui en Arabie Saoudite, sa terre d'exil depuis qu'il a fui son pays au début du printemps arabe en 2011. Eric Manirakiza.
Nous avons eu la confirmation de sa mort il y a 30 minutes, a déclaré le ministère tunisien des Affaires étrangères sans plus de détails. Des rumeurs sur sa mort ont circulé à plusieurs reprises ces dernières années. Le premier ministre tunisien Youssef Chahed avait même assuré qu'il était prêt à donner son feu vert pour son retour. Peu après l'annonce de son décès, le lieu des funérailles Arabie Saoudite ou Tunisie restait inconnu. Ben Ali et son épouse Leila Trabelsi ont régné sur la Tunisie d'une poigne de fer pendant 23 ans, mettant l'économie du pays en coupe réglée. Il avait été renversé début 2011 avec un mouvement populaire, point de départ d'une vague de révolte dans la région connue sous le nom de Printemps arabe. Ben Ali avait fui le 14 janvier 2011 dans des conditions rocambolesques vers Jeddah, en Arabie Saoudite, où il vivait depuis en exil avec sa famille. En 2018, à l'issue de procès pour homicide volontaire, abus de pouvoir ou encore détournement de fonds, il avait été condamné par contumace à de multiples peines de prison, dont plusieurs à perpétuité. Il a rendu son âme à 83 ans.
Nous reviendrons sur son portrait plus en détail dans notre partie magazine. Deux anciens chefs de milice centrafricains, Patrice Edouard Gainsona et Alfred Yekatom, ont comparu devant les juges de la Cour pénale internationale pour une audience dite de confirmation des charges pesant contre eux. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La procureure de la CPI, Fatou Ben Souda, accuse Patrice Edouard Gainsona et Alfred Yekatom, tous deux anciens chefs anti-Balaka, de plus de 100 chefs d'accusation, dont des meurtres, viols, actes de torture et mutilation. Gainsona et Yekatom sont ici en raison de leur implication criminelle dans une campagne de violence et de terreur, mêlant civils et enfants en 2013 et 2014, a déclaré le procureur Kouekou Van der Pouye, ajoutant, je cite, que M. Yekatom a même commis personnellement certains de ses crimes. Le but des attaques était de cibler violemment les musulmans en représailles des crimes commis par les Séléka, a affirmé M. Van der Pouye. Comment alors se fait-il qu'aucun Séléka ne soit à ce jour poursuivi par la CPI? S'est interrogée Mylène Dimitri, avocate de M. Gainsona. Au cours des débats prévus jusqu'au 27 septembre, les juges décideront s'il existe des preuves suffisantes pour ouvrir un procès. Après la prise du pouvoir à Bangui par la coalition de la Séléka en 2013, les milices d'autodéfense anti-Balaka ont été créées pour, selon elles, défendre les intérêts des chrétiens face aux exactions des groupes armés musulmans.
En République démocratique du Congo, 5 personnes ont été tuées dans l'offensive qui a permis d'éliminer le chef de la rébellion Hutu du FDLR dans l'est du pays, a déclaré ce jeudi l'armée congolaise. L'armée avait annoncé hier neutraliser Sylvestre Mudakumura, le commandant suprême du Front démocratique de la libération du Rwanda. Elle a diffusé ce jeudi la photo de son corps ainsi que celle de son secrétaire général. Toujours en RDC, ne pas recevoir des cadeaux de plus de 350 000 francs congolais, soit environ 190 euros par an. C'est l'un des engagements pris par les 66 membres du nouveau gouvernement, tous invités à signer une sorte de charte de déontologie. Le président Tshisekedi, actuellement en visite en Belgique, avait promis lutter contre la corruption durant son mandat. Les 27 enfants d'une école coranique morts dans l'incendie de leur dortoir au Libéria étaient tous d'origine guinéenne, a indiqué l'ambassadeur de Guinée à Monrovia, au lendemain du drame dans lequel un enseignant a également péri. Nathalie Barge.
Les victimes sont toutes d'ascendance guinéenne, selon l'ambassadeur de Guinée, Abdoulaye Doré, qui affirme avoir la liste des noms, dont la majorité porte des patronymes Peul tels que Diallo, Sow ou Barry. Toutes les victimes ont été inhumées mercredi sans tarder, conformément à la tradition musulmane. L'ambassade de Guinée a pris part à la prière et à l'inhumation, a indiqué M. Doré. Le président guinéen Alpha Condé a fait part hier soir de sa vive émotion après cet incendie meurtrier dans les faubourgs de Monrovia. Le feu pourrait avoir été causé par un défaut électrique, mais l'enquête se poursuit, a précisé le porte-parole de la police, Moses Carter, écartant un acte criminel.
Au Sénégal, fin du feuilleton ayant mis en lumière l'institution Saint-Jeanne d'Arc, une vingtaine de lycéennes musulmanes interdites de classe dans cette école catholique de Dakar pour avoir porté le voile lors de la rentrée scolaire ont été réadmises ce jeudi après un compromis entre l'établissement et le gouvernement sénégalais pendant à peu près deux semaines de polémique. Le président Adama Barrow a estimé ce jeudi que la Gambie était sur la voie de la réconciliation et engrangerait des progrès significatifs dans les secteurs de la santé et du tourisme deux ans et demi après le départ en exil de son prédécesseur Yahya Jammeh.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a assuré à Abu Dhabi que les États-Unis privilégieraient une solution pacifique après la récente attaque contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite, évoquant un consensus dans le Golfe sur la responsabilité de l'Iran. Par ailleurs, les États-Unis ont accusé le gouvernement afghan de laxisme et d'inefficacité dans la lutte contre la corruption et a annoncé le retrait de plus de 160 millions de dollars d'aide directe à moins de 10 jours de l'élection présidentielle en Afghanistan. Il s'agit d'un camouflet pour le président Ashraf Ghani, candidat à sa réélection le 28 septembre prochain, qui s'était montré très critique à l'égard de l'accord de paix négocié entre Washington et les talibans avant que Donald Trump ne mette fin au pourparlers. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui joue sa survie politique, a pris Israël par surprise ce jeudi en appelant Benny Gantz à la formation d'un gouvernement d'union nationale deux jours après des élections législatives n'ayant pas réussi à départager les deux rivaux. Le point avec John Lyndon.
En réponse à cet appel, Benny Gantz a dit vouloir lui aussi un gouvernement d'union afin de sortir le pays de l'impasse politique. Mais il a ajouté vouloir diriger ce gouvernement et ainsi prendre la couronne du roi Bibi. Ce dernier affirmait encore mercredi que le pays n'avait que deux choix, soit un gouvernement de droite dirigé par lui, soit un gouvernement dangereux qui repose sur les partis arabes, une attaque indirecte contre M. Gantz, qui a promis d'ouvrir des discussions avec les partis arabes dans l'espoir d'arriver à une coalition. Mais jeudi matin, coup de tonnerre, Benjamin Netanyahou, au pouvoir sans discontinuer depuis une décennie, a changé son fusil d'épaule et proposé des discussions directes avec son principal rival, l'ex-général Gantz. Lors des élections, j'ai appelé à la mise en place d'un gouvernement de droite. Malheureusement, les résultats des élections montrent que cela n'est pas possible, a déclaré M. Netanyahou dans un message vidéo. Les deux hommes se sont serrés la main jeudi lors d'une cérémonie à Jérusalem, marquant le troisième anniversaire de la mort de l'ancien Premier ministre et prix Nobel de la paix, Shimon Peres. Le président israélien, lui, entamera dimanche un round des consultations avec tous les partis élus à la Knesset et poursuivra ensuite ses discussions avec les candidats recommandés pour former le nouveau gouvernement.
Le Liban a exposé deux drones qu'Israël est accusé d'avoir envoyés sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite du Hezbollah. Israël n'a pas souhaité commenter cet incident. Une télévision canadienne a diffusé une vidéo datant de 2001 avec Justin Trudeau avec le visage maquillé en noir, ce qui est également appelé blackface, et ce au lendemain de la publication d'une photo semblable. Ces paritions ont contraint le premier ministre canadien sortant à s'excuser en pleine campagne électorale d'avoir commis une action raciste. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La compagnie australienne Jiangmin Group compte exploiter du fer de gisement de Banyaka dans la province du Haut-Ogooué au Gabon dès la fin de l'an prochain. Le projet permettra de produire 5 millions de tonnes de fer par an. Le potentiel réel de Banyaka est estimé à près de 100 millions de tonnes. Le minerai produit sera évacué vers les installations portuaires d'Owindo. Le projet inclut également la construction d'une ligne de chemin de fer longue de 60 km qui doit permettre de relier le site de production à la société d'exploitation du trans-gabonais CETRAG. Le groupe français de boissons Star a demandé un audit indépendant de sa chaîne d'approvisionnement à Madagascar à la suite d'informations associant la production de maïs à la déforestation dans la région de Menabe, d'où provient 11% du maïs que la société utilise. Celle-ci assure ne pas vouloir que ces boissons soient la cause de la déforestation ou de la perte de biodiversité. Star achète 13 000 tonnes de maïs malgache, soit 2,65% de la production annuelle totale du pays. Terminons par le Mali qui recevra de la Norvège 3,4 millions de dollars pour permettre aux cantines scolaires de nourrir 55 000 enfants. Selon l'agence Ecofin, les fonds seront utilisés par le biais du programme de fourniture de repas scolaires géré par le programme alimentaire mondial dans la ville de Mopti au centre du pays.
C'est le moment de la page sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
Le club africain de nouveau sanctionné par la FIFA.
La FIFA a informé la direction du club tunisien qu'il est interdit de recrutement pour les deux prochains mercato. Cette nouvelle sanction fait suite au non-règlement des dus de l'attaquant zimbabwéen Matiou Riziki. Le club de Bab Jedid n'a pas versé la somme exigée par Matiou Riziki avant la date limite fixée par l'instance internationale. Le club africain a réagi affirmant que cette sanction sera levée après le règlement du montant dû, ajoutant que Riziki avait déjà reçu le tiers de la somme. Le club tunisien a assuré qu'un accord sera signé entre les deux parties pour lever la sanction de la FIFA. Pour rappel, le club de Bab Jedid a été interdit de recrutement de joueurs pendant les deux précédents mercato.
Dixième club professionnel pour le Ghanéen Samoa Diang.
Et oui, libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec Kayserispor en Turquie, l'international ghanéen de 33 ans s'est engagé avec North East United FC en Inde dans la Super League, le championnat de première division. Samoa Diang rejoint ici son dixième club professionnel après notamment Sunderland, Rennes, Shanghai ou encore Al Ain. Aucune indication n'a été donnée sur la durée du contrat. C'est une nouvelle expérience donc pour Diang qui détient le record de buts sous le maillot des Black Stars, 51 buts. Il est également le meilleur buteur africain en Coupe du Monde avec 5 réalisations.
Le Ballon d'Or 2019 remis le 2 décembre prochain.
Le Ballon d'Or 2019 sera remis à ses lauréats hommes et femmes le 2 décembre lors d'une cérémonie à Paris, co-présidée par l'ancien international ivoirien Didier Drogba. L'édition 2019 verra la création d'un nouveau trophée Yachin, une récompense destinée aux meilleurs gardiens du monde. Ce prix porte le nom de l'ancien portier soviétique Lev Yachin. Jusqu'à présent, seul gardien à avoir gagné le Ballon d'Or en 1963. La liste des joueurs et joueuses nommées sera dévoilée le 21 octobre. En 2018, la plus prestigieuse des récompenses individuelles en football a été décernée à Luka Modric, milieu croate du Real Madrid. L'attaquante norvégienne de Lyon, Ada Egerbeck, a reçu le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire.
Athlétisme, l'éthiopienne Genzembe Dibaba déclare forfait pour les mondiaux.
La championne du monde du 1500 mètres en 2015 à Pékin et recordwoman du monde de la distance depuis juillet 2015 à Monaco, avec un chrono de 3 minutes 50.07, ne participera donc pas aux mondiaux de Doha du 27 septembre au 6 octobre à cause d'une blessure. Elle souffre d'une rupture partielle de la membrane sous le pied droit. La douleur est apparue le 29 août lors de la finale de la Ligue de Diamants à Zurich, qu'elle avait terminée à la 4e place. Genzebe Dibaba faisait partie des principales prétendantes au podium du 1500 mètres à Doha, en tant que deuxième femme la plus rapide sur la distance cette année, derrière la Norvégienne Sifan Hassan, qui voit son statut de favorite renforcé.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kiabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, place au dossier du jour. En exil en Arabie Saoudite depuis 8 ans, l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali est décédé aujourd'hui. Après 23 ans de règne, il a été chassé par la rue le 14 janvier 2011. Maître tout-puissant de la Tunisie pour les uns, symbole du miracle tunisien pour les autres, Ben Ali a peu à peu sombré dans l'indifférence de son pays où il a été condamné à des peines de prison par coutumasse. Pour un retour sur les années Ben Ali, Claire Morin-Gibou rejoint le journaliste tunisien Mourad Selmi.
Ben, ça représente d'abord la dictature. Ben Ali a malmené tous les opposants. Il a fabriqué des histoires contre des opposants. Il a falsifié des élections. Donc, tout était possible. Tout était admis dans sa tête pourvu qu'il reste au pouvoir et qu'il n'ait pas de voix opposée à la sienne, quoi, et à son orientation politique. Là, sur le plan dictature, il y a aussi la corruption. Les beaux-frères de Ben Ali, qui n'étaient rien du tout, qui étaient un instituteur et des gens qui, sur le plan social, n'avaient pas vraiment un grade reluisant, disons. Ben, ces gens-là sont devenus des milliardaires et du jour au lendemain, la famille Ben Ali, à son départ de Tunisie, juste à la chute des régimes, leur fortune s'est évaluée, selon les uns et les autres, entre 2 et 5 milliards de dollars. Oui.
Mais néanmoins, certains parlaient et certains le défendaient en amenant cette idée de miracle tunisien et sur ce qu'il avait fait, les progrès qu'il avait amenés dans le pays.
Ben oui, je ne doute pas que la Tunisie a développé une certaine infrastructure et qu'il y avait de la stabilité dans le pays. Il y avait de la croissance, une moyenne de croissance de 5% sur les deux décennies gouvernées par Ben Ali, et l'infrastructure s'est développée un peu, quoi. Donc, du coup, ce que je retiens de positif de la période Ben Ali, c'est en effet cette infrastructure et cette stabilité, cette administration disciplinée qui a su gérer la transition en 2011, par exemple. On ne peut pas le nier.
Mais il est vrai que ce miracle tunisien s'est un petit peu fissuré à la fin des années 2000, ou avec le développement du chômage, de la misère.
Pas uniquement le chômage. Dès la 2007-2008, dès la révolte des gens du bassin minier, on commençait déjà à voir les répercussions de la politique socio-économique de Ben Ali. Il y a aussi des chiffres gonflés. Par exemple, en Tunisie, nous, journalistes, les officiels nous disaient qu'il y avait 90% de gens qui disposent de la couverture sociale, de la couverture médicale, par exemple. Alors qu'en réalité, après 2011, on a découvert qu'il n'y avait que 65%. Donc, finalement, le miracle tunisien a été basé sur des chiffres gonflés. La pauvreté était cachée, elle n'était pas apparente. Donc, si j'ai retenu l'infrastructure, parce que c'est apparent. Mais la face cachée de la Tunisie qu'on a découverte après 2011, elle est vraiment atroce et la Tunisie peine encore à gérer cette situation.
Mourad Selmi, journaliste tunisien, joint à Tunis. La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. Au Burkina Faso, plus d'1 million de candidats prennent part cette semaine au concours d'accès à la fonction publique pour quelques 5 000 postes, soit 211 candidats pour chaque poste, conséquence du marasme économique dans le pays. À Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Depuis hier, 1 247 751 candidats ont entamé les épreuves écrites des concours d'accès à la fonction publique. Seulement 5 892 postes sont disponibles, soit un poste pour 211 candidats.
Je ne pars pas pour prendre une part, pas pour tenter. Donc, parce que s'il arrive qu'il y a des gens qui partent pour leur première fois et ils réussissent, c'est pas moi qui va au fait aller pour faire des répliques.
Adama Dibri, étudiant en lettres modernes, passe pour la première fois ces concours.
Ça vient avec sa chance, parce qu'il y a des concours où on demande 5 candidats, peut-être 7 candidats, mais il y a des gens qui arrivent à gagner avec des mentions. et ils sont peut-être des premiers. Donc, moi aussi, avec mon espoir, je me dis que je vais aller tenter ma chance.
Abdoul Latif Koutou est commerçant à Ouagadougou. Il déplore le nombre plutôt de candidats.
1 million et quelques de candidats pour 5 000 forces, vraiment, c'est que ça ne va pas. Je peux entreprendre autrement, mais ça, il faut dans le privé. Vous savez que le privé aussi au Burkina, ici, c'est pas facile aussi. Entreprendre aussi personnellement, ça encore, ça demande un moyen. C'est ce qui est difficile ici aussi.
Cette situation est due au fait que l'État reste le plus gros pourvoyeur d'emplois.
Le tissu économique au niveau national, on sait ce qu'il est, il n'est pas capable de résorber, j'allais dire, tous ceux qui sortent.
Abdoulaye Tao est le directeur de publication de l'économiste du FASO, un journal spécialisé sur les questions économiques.
On n'a pas beaucoup d'industries, c'est fait plutôt d'entreprises de commerce qui sont très petites, en dehors des quelques multinationales qui recrutent. Le niveau d'absorption au niveau du secteur privé reste très faible. Il n'y a pas beaucoup de création d'emplois. Donc, l'État reste en fait l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes qui sortent des écoles.
Cette année, des innovations ont été apportées au concours, selon Oumarou Toué, directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État.
Et elles sont particulièrement liées au e-concours, les innovations en matière d'abord d'inscription. Exceptionnellement, cette année, nous avons fait des inscriptions en ligne. Nous avons renforcé les dispositifs pour la correction électronique qui a démarré depuis la session dernière.
Ces concours se poursuivent jusqu'au 30 septembre. En 2018, ce sont 1 315 515 candidats qui étaient en liste pour 6 668 postes. Ce nombre de candidats restera en forte croissance tant qu'il n'y aura pas la création de nombreuses entreprises, selon plusieurs analystes. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Zimbabwe, la peur paralyse le système de santé déjà très fragile. Les médecins et les malades veulent rester à l'écart. La disparition d'un jeune médecin en grève pour obtenir un meilleur salaire n'a fait qu'aggraver la situation. Un reportage d'Anita Powell à Harare, récit de Bagasikoura.
Des médecins zimbabwéens ont organisé une marche pour exiger le retour du docteur Peter Magombeyi. Ce jeune médecin a dirigé une grève pour obtenir un meilleur salaire dans le secteur public et ce week-end, il a disparu. Ses collègues disent qu'il a reçu des menaces de personnes qu'il a identifiées comme des membres des services secrets du Zimbabwe. S'il y a une chose qui unit les médecins et les malades, c'est bien la peur. Le système de santé publique du Zimbabwe est devenu un souffre-douleur dans une économie en ruine et une inflation à 3 chiffres. Les administrateurs, les docteurs et les patients ont dit à la Voix de l'Amérique que les hôpitaux ont souvent beaucoup de mal à s'approvisionner. Les médecins du service public disent qu'ils ne peuvent pas joindre les deux bouts avec un salaire moyen de 100 dollars par mois, mais aussi ils ont appris qu'en parler a des conséquences. Les collègues de Magombeyi ont lu un message qu'il leur a envoyé peu de temps avant sa disparition. Docteur Learnmore Shoti de l'association des médecins Paritenian 3.
Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Continuez à faire ce que vous faites, vous serez bientôt pris dans un tourbillon. Ce qui est une menace que vous allez disparaître. Ok? Ceci est une copie de sa capture d'écran quelques jours avant cet incident. Nous sommes donc très inquiets sur ce qui s'est réellement passé.
C'est un autre type de peur qui fait que Dorcas Nyatoti est resté loin des hôpitaux pendant plusieurs décennies. Lorsque, durant son enfance, ses pieds affligés par la polio lui faisaient mal, elle serrait les dents ou prenait des médicaments en vente libre dans les rues. Elle dit que chaque fois qu'elle se présentait dans un hôpital, les prix étaient terrifiants et elle n'a pas de revenus.
Je ressens la douleur, mais je ne peux rien faire. C'est la voie sur laquelle je suis. C'est mon pays.
C'est le même diagnostic pour des médecins qui estiment que le problème n'est pas le manque de compétences, mais la peur. Docteur Shingira Emeki, hôpital général de Paris-Réniatoua. La VOA a pu rencontrer le docteur Peter Magombeyi avant sa disparition.
J'aime le Zimbabwe et mes collègues conviendront avec moi qu'ils aiment aussi le Zimbabwe. Nous aimons notre pays, c'est beau. Toutefois, cela ne nous empêche pas de voir que lorsque l'économie se dégrade.
2 jours plus tard, le docteur Magombeyi a disparu. et n'a plus jamais été revue.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au cœur d'Harlem, des restaurants ouest-africains, des magasins de téléphonie mobile à bas prix, des boutiques de vêtements pleines de wax et de basins, et des supérettes avec des condiments tels que des cubes magie, de la mayonnaise calvée et même du poisson fumé. Si vous ne l'avez pas deviné, nous sommes à Little Sénégal ou Petit Sénégal en français, le quartier des immigrés ouest-africains situé tout au nord de la ville de New York entre la 116e et le boulevard Malcolm X. Autrefois prospère et coloré, ce segment d'alerte d'Harlem ne cesse de rétrécir et d'être envahi par les grandes chaînes de fast-food, perdant ainsi son charme à l'africaine. Mais ce n'est pas pour autant qu'il cesse d'être le lieu de référence pour se ressourcer sans prendre l'avion. Dilly Dico s'est rendue sur place, elle nous fait le constat d'une journée passée à Little Sénégal.
Little Sénégal est le meilleur de deux mondes. Un microcosme dans lequel les Ouest-Africains se retrouvent lorsqu'ils ont le mal du pays pour se procurer quelques denrées venues tout droit du continent ou savourer des plats authentiques comme l'attiéké ou le tiéboudienne. Écoutons ce client du restaurant sénégalais Le Baobab qui explique que cette adresse est sa préférée pour venir se ressourcer.
Parfois nous venons manger ici lorsque le Sénégal nous manque, vous savez, quand on a un peu de temps et qu'on ne travaille pas, nous venons manger ici.
À Little Sénégal, même si les affaires marchent, le nombre de restaurants et de commerces a nettement diminué au cours de la dernière décennie. L'augmentation du prix du loyer est insoutenable pour les petits commerçants africains qui se retrouvent ainsi poussés par la gentrification vers des quartiers comme le Bronx où le loyer reste encore abordable. Pour Fatou, une immigrée sénégalaise ayant réussi à ouvrir avec sa sœur trois épiceries sur la 116, au-delà de l'aspect économique, la fonction la plus importante de Little Sénégal est de créer un esprit de communauté. Fatou Nyang, gérante du magasin Adjakadi, nous en dit plus.
Nous proposons toutes sortes de marchandises et je pense que les gens apprécient vraiment cela. Nous essayons de le faire de la manière la plus professionnelle possible. Je pense que c'est une bonne façon d'offrir sa contribution à la communauté.
L'appartenance à la communauté est également un sentiment auquel fait écho Moussa Traoré, un immigré originaire du Mali. Selon lui, Little Sénégal, qui abrite à la fois le consulat du Sénégal et l'association des Sénégalais de New York, n'est pas une représentation du Sénégal, mais plutôt de l'Afrique de l'Ouest, y compris des pays anglophones comme le Ghana ou le Nigeria. Écoutons Moussa Traoré.
Beaucoup de personnes pensent que ce quartier est celui des Sénégalais, mais nous le considérons plutôt comme le quartier des Ouest-Africains. Il y a ici des personnes de toute la région. Certains sont venus du Niger, d'autres de la Côte d'Ivoire, des Sénégalais et des Maliens et même des Ghanéens, sans oublier les Burkinabés. Je pense que le terme Little Africa décrit mieux la réalité. Même les Américains appellent cet endroit le quartier africain, sans préciser. C'est en fait le bloc des Africains.
Le quartier qui doit son nom à l'arrivée massive d'immigrés sénégalais dans les années 70 puis au début des années 90 avec l'Immigration Act ayant donné lieu à la loterie de la Green Card est effectivement de nos jours davantage un lieu de melting pot ouest-africain. Et malgré l'augmentation fulgurante du prix du mètre carré qui se voit triplé voire quadruplé à la fin du bail de location, Little Sénégal sert toujours de ciment à la communauté ouest-africaine de New York. Dilly Dico, VOA, New York.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis à la mise en onde Cheikh Chéro, à la console Michael Dubinsky et Kabadou vous a présenté ce journal. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.